Dans la Haute-Ariège, 92.7.
Dans la Haute-Ariège, où là-bas aussi, il doit faire bien bon, puisque à Lourdes, déjà, le grand soleil est présent depuis ce matin, avec des températures qui ne cessent de monter. Il va faire beau tout au long de cette journée. C'est le Présence Midi. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien sur Présence du lundi au vendredi, jusqu'à 13h. Au sommaire de cette émission, dans quelques instants, la chronique verte de Benoît Guillard, qui nous proposera de découvrir l'association L'Être, une association d'aide à la réinsertion par l'emploi. Nous aurons le coup de cœur en librairie de Nicolas Dargegène qui nous fera découvrir un livre intitulé La force du silence. Nous aurons bien sûr les informations et puis la chronique solidaire, solidairement vôtre, avec Anne Deslois qui nous amènera aujourd'hui à Lourdes découvrir le Parvis Sainte-Bernadette. Nous en saurons un petit peu plus aux alentours de 12h35. Et puis enfin, Catherine Albrecht nous proposera son rendez-vous hebdomadaire avec les Pyrénées, nos belles Pyrénées que nous aimons tant sillonner. Faites attention tout de même, il y a toujours beaucoup d'accidents. Il y a même eu plus de morts dans les Pyrénées que sur la route dans le département des Hautes-Pyrénées au cours de l'année 2025. Eh bien oui, il faut faire attention. Je disais donc ce rendez-vous qui nous amènera à découvrir Ramon de Carbonnière qui a sillonné les sentiers pyrénéens il y a de cela de nombreuses années. Allez, on débute cette émission avec tout d'abord le journal.
Nouvelle journée de mobilisation dans le secteur médico-social mardi avec plusieurs rassemblements organisés en Occitanie afin de réclamer davantage de moyens humains et financiers. À Montauban, une journée d'accompagnement a été proposée aux nouveaux maires du Tarn-et-Garonne afin de les aider dans la prise en main de leurs fonctions. En Aveyron, d'importants travaux de chaussée sur l'A75 entraîneront des perturbations de circulation entre la fin mai et la mi-juin autour de Sévérac d'Aveyron. Une cagnotte en ligne a été lancée pour restaurer le sanctuaire de Notre-Dame de Garaison, considéré comme l'un des plus anciens lieux de pèlerinage des Pyrénées. À Tarbes, grand week-end polynésien animera la Marcadieu avec danse, concerts, tatouage et gastronomie du Pacifique. De quoi se divertir lors de ce week-end de Pentecôte. Et puis enfin, le Toulousain Guilherme, ancien candidat de The Voice, lance un appel à l'aide après son élimination de l'émission et évoque ses difficultés financières à payer son loyer.
Et oui, c'est pas parce qu'on passe sur le petit écran que forcément la gloire et l'argent abondent.
Présence à Cahors 92.5.
Et retour de l'information aux alentours de 12h30, bien sûr, sur Présence. Dans les médias, je vous le disais, c'est la chronique verte de Benoît Guillard, direction Ibos, à côté de Tarbes.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, j'ai fait le choix d'aller à Ibos, à la rencontre d'une association qui s'appelle l'association L'Être, et avec donc les animateurs, coordinateurs qui sont à l'origine de cette idée, l'idée étant d'accompagner des jeunes, moins jeunes d'ailleurs, en situation de recherche d'emploi et en difficulté, et en utilisant la valeur qu'est la transition écologique et tous les travaux qu'elle propose finalement pour le futur. Donc je vais vous présenter ces deux personnes, ou plutôt elles vont se présenter.
Bonjour, alors donc moi je suis Nicolas Flavini. Je suis à présent le coprésident de l'association Ecohabilis, donc une association centre de formation qui porte le projet d'école Être. Être pour école de la transition écologique. Et donc on est basé ici à Ibos sur le tiers-lieu du lien Pyrénées.
Alors, on va continuer à faire circuler le micro. Bonjour.
Bonjour. Je suis Flore Colombon, coordinatrice du projet donc, de l'école Être des Hautes-Pyrénées, donc salariée de l'association Ecohabilis depuis octobre 2023, avec le démarrage donc, du projet associatif École Être courant septembre 2023.
Alors, cette école Être, de quoi y retourne? Qu'est-ce qu'on y fait? Qui contribue? Qui participe? Qui fait quoi?
Alors, l'idée, c'est de former des jeunes qui sont pas ou peu diplômés, des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, de les former à des métiers manuels de la transition écologique. Et l'idée aussi, c'est, alors on a beau s'appeler école, c'est de les amener vers ces métiers, mais sans une approche scolaire, plus une approche de mise en pratique. Donc sur des projets, des réalisations qui peuvent être autour du bois et de l'éco-construction. Ça peut être aussi du maraîchage, de la transformation de la laine. Et puis on a choisi aussi d'élargir les thématiques avec les mobilités, donc réparation de vélo, entre autres. Et en fait, dès que ça a un lien avec un métier manuel qui a une place dans la transition écologique, ben on explore cette possibilité.
D'accord, donc ces métiers, ça peut donner lieu à une certification professionnelle par exemple, pas systématiquement ou systématiquement?
Alors en fait, l'idée c'est de permettre aux jeunes qui sont en situation de fragilité dans la mesure où elles sont pas en emploi, elles sont pas en études, et en fait c'est de les amener à reprendre confiance sur une des thématiques dont on a parlé. Elles vont essayer plusieurs choses, sachant que le fil conducteur c'est quand même la thématique autour du bois, charpente, menuiserie avec du bois de réemploi. Et l'idée c'est que le jeune fur et à mesure de son cursus, donc on a deux types de cursus, 2 semaines ou 3 mois, ils prennent confiance et si possible, il ait une envie d'aller approfondir. Donc non, il ne sera pas ni certifié ni diplômé à la fin, il aura une attestation de formation. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est qu'il puisse aller vers une formation un peu plus longue et qu'en fait, il soit pré-équipé. Et qu'il ait confiance pour tenir sur une formation qui va durer peut-être 9 mois, peut-être 2 ans, et qu'il ait le plus de chances de succès possible.
Donc c'est une phase de rétablissement, comme on peut le voir, une phase où on retrouve un petit peu d'estime de soi et un peu de confiance pour repartir sur un chemin professionnel, c'est ça, hein?
Oui, pour compléter un petit peu ce que disait Nicolas, en fait, nous on travaille vraiment en partenariat avec les prescripteurs locaux. Donc on a, en fait, les jeunes arrivent jusqu'à nous via les missions locales ou la PJJ ou l'aide sociale à l'enfance. Et l'idée c'est que vraiment, en fait, il y a un accompagnement du début à la fin. Donc on fait en sorte d'être un dispositif qui est avant la qualification. On vient jamais prendre la place, en fait, d'organismes ou de centres de formation qui existent déjà, qui ont des propositions au niveau qualification, en fait, sur le territoire. Mais c'est ouvrir les possibles, en fait, aux jeunes ou à la jeune, et lui montrer, en fait, qu'il y a des choses qui existent, qu'il y a des projets ultra chouettes, en fait, sur le territoire, et que ça leur permette de rebondir, effectivement, reprendre confiance en eux. Mais nous, là, dans ce qu'on va proposer, on est vraiment sur déjà explorer ses compétences individuelles, reprendre confiance dans le rapport à l'autre aussi, dans le fait de venir tous les jours, d'arriver à l'heure. Et en fait, parfois, c'est déjà juste un frein énorme pour certains ou certaines jeunes. Et du coup, c'est le levier qu'on essaie de travailler le plus possible.
D'accord. Donc aujourd'hui, on est au lien. Donc sans doute qu'il n'y a pas de hasard. Si on est sur le tiers-lieu du lien, on avait fait une petite émission à Radio Présence sur le lien et tout le travail qu'ils produisent autour de la transition écologique. Combien de jeunes aujourd'hui sont accueillis?
Nous, on a un maximum de 8 jeunes par formation. Dans tous les cas, on va aller jamais au-dessus. On sait en fait que c'est un moyen, en fait, d'avoir un accompagnement socio-professionnel dans le cadre des formations de qualité. On va pas non plus aller sur des élèves, 12 élèves par exemple, ça serait trop, d'un point de vue très technique. En fait, par rapport aux machines, l'encadrement, il faut avoir plusieurs yeux, plusieurs bras. Et du coup, c'est aussi important d'avoir cette jauge maximum à 8. Et on sait aussi qu'en fait, on est avec des publics qui ont, comme je le disais, des freins à lever. Et du coup, ça passe aussi par beaucoup d'absentéisme. Et du coup, on va aller parfois de 6 à 8 jeunes sur les formations.
Bon, plusieurs métiers sont entrepris, donc du coup, on l'a entendu, hein, le bois, le maraîchage, etc. Donc ça veut dire que vous avez des équipements sur place, vous avez des ateliers.
Oui, on est donc au tiers lieu Le Lien à Ibos depuis septembre 2023. Et dans ce cadre-là, on a une location en fait dans le local où là, on a la totalité des ateliers bois éco-construction qui se réalisent. Par contre, pour tout ce qui est maraîchage biologique ou autre activité, on est soit à l'extérieur chez des maraîchères, en majorité, on travaille avec des femmes, plutôt sur le secteur des baronnies ou ailleurs. On a un jardin test au lien quand même, on expérimente en lien avec les équipes du tiers-lieu. En fait, ça fonctionne sur une semaine, on est 4 jours en école avec les jeunes, 2 jours au local où on fait de l'éco-construction ou de la laine avec une intervenante salariée et 2 jours en extérieur, visite de professionnels ou avec des associations. Sur cette formation-là actuellement, par exemple, on a des journées où on va aller à la Hunt dans les baronnies pour aller vraiment explorer toutes les thématiques de biodiversité, recréer aussi des espaces verts autour du camp de la Honte, etc. Donc voilà, c'est...
Alors peut-être on va parler un petit peu du modèle économique. Bon, pour accueillir ces jeunes, est-ce qu'eux-mêmes doivent financer leur formation? Il y a des aides de l'État ou des aides de la région peut-être pour la formation? Comment ça fonctionne, voilà, le modèle économique de votre association?
Alors, donc pour le jeune, les formations sont 100% gratuites. Voire pour certains jeunes, on peut mettre en place des aides à la mobilité pour rendre possible cette formation. Et ensuite, le fait d'avoir reçu le label Être, en fait, les écoles Être, c'est un réseau d'écoles qui sont maintenant un peu partout en France et qui, en Occitanie, bénéficient d'une convention de financement. Donc, on est financé en partie par la région Occitanie, en partie par les fonds de solidarité européens. En fait, c'est la région qui fait appel à l'Europe pour arriver à un financement de l'ordre de 70% de notre école. Donc, on doit trouver d'autres leviers de financement. Donc, il y a plusieurs axes de travail. Il y a des appels à projets. Ça peut être des appels de fondations, des fondations d'entreprises. Donc on met au travail ces différentes possibilités. Et enfin, il peut y avoir de l'autofinancement au travers de réalisations qui sont faites avec les jeunes en formation. Et ensuite, c'est vrai que les thématiques et le projet, le plaidoyer de l'école parlent à beaucoup de gens. Donc il y a des salariés dans l'association au nombre de 5, répartis sur 3, un peu plus de 3 équivalents temps plein. Et il y a aussi des bénévoles. Et c'est un peu la force du projet. C'est que, par exemple, en éco-construction, en menuiserie, il y a un retraité qui a 40 ans d'expérience et une super histoire de vie. Il s'appelle Pedro et il vient à peu près une journée par semaine de façon, encore une fois, bénévole et il apporte énormément aux jeunes. Et de la même façon, on a une architecte qui vient. Moi, j'ai été pendant un temps salarié et maintenant, je participe au projet. Alors, plus sur la partie montage, structuration, financement. Et donc, voilà, le projet est tellement chouette qu'il fait venir pas mal d'énergie. Donc, les salariés, c'est incontournable parce que sans salariat, on ne peut pas avoir une action continue avec les jeunes. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en place finalement assez récemment. À partir du moment où on a réussi à mettre en place des conventions avec la région et l'Europe, ça a permis de lever aussi un peu de fonds de trésorerie pour pouvoir initier le salariat. Et ce qui est génial, c'est qu'on a gardé aussi un certain nombre de bénévoles. Et du coup, on arrive à boucler un semblant de modèle économique. C'est un exercice du quotidien. On reste très très précaire, donc on reste très ouvert à toute possibilité de recevoir des financements. Et aussi des aides de bénévoles. On a aussi assez régulièrement des recherches en personnel salarié. Donc voilà, on reste très ouvert à ces possibilités.
Effectivement, c'est pas facile, hein, inévitablement, mais peut-être que aussi on peut faire appel à nos auditeurs. Vous pouvez peut-être percevoir des dons. C'est possible aussi, ça, des dons?
Oui, tout à fait, c'est possible. Alors, on peut, si on est intéressé par le projet, on peut adhérer à l'asso. Donc c'est une adhésion qui est de l'ordre de 20 euros. Et ensuite, oui, on peut faire un don. En fait, c'est, on peut adhérer et puis donner un petit peu plus. Ça, c'est tout à fait possible. Et les personnes qui souhaitent avant venir voir peuvent venir voir. On peut échanger avec elles. On va pas faire. Pour l'instant, on n'a pas de campagne de crowdfunding en cours, mais on a plus. Un appel continu à manifestation d'intérêt. Tous les gens qui sont intéressés, ils peuvent venir, on peut échanger. S'ils veulent donner, ils peuvent donner. Mais on peut donner du temps aussi. C'est pas forcément des euros.
Alors, on va le rappeler pour nos auditeurs. Hein. Vous êtes dans l'espace du tiers-lieu Le Lien, donc au bas de la côte de Gers, comme on dit tous ici, hein, sur la route de Pau. Voilà. Et donc, nos auditeurs peuvent venir vous voir, vous rencontrer, éventuellement acheter des choses. Pas encore, peut-être. Hein, je voyais qu'il y a une belle table de menuiserie devant l'atelier, mais...
En fait, on n'a pas du tout vocation à faire concurrence à des enseignes. Donc, on a rien à vendre. Après, on peut très bien mettre en place un partenariat via une convention avec une collectivité locale. Mais c'est pas exactement le projet de l'école que de vendre des biens de consommation.
Donc aujourd'hui, si une famille est devant une situation avec un adulte qui est en recherche d'emploi, donc c'est Mission Locale qui vous envoie les candidats potentiels, c'est ça ?
Les candidats peuvent très bien nous joindre directement. En fait, souvent la mission locale est un acteur, on va dire, assez incontournable dans l'accompagnement des jeunes. Mais on a aussi des jeunes qui sont venus hors mission locale. Et on peut aussi travailler avec la mission locale pour qu'ils soient suivis en parallèle par la mission locale. C'est une condition qui n'est pas du tout obligatoire.
D'accord. Oui, il faut quand même qu'ils aient une assise sociale minimum et qu'ils aient quand même une approche et une envie minimum, je suppose.
Oui, puis il y a aussi la question de l'âge. On est sur un public, en tout cas nous, dans le cadre de la convention un peu établie avec la région et dans le cadre aussi du public cible des écoles au niveau national, on est sur du 16-25 ans. Après, on a 80% du public qui est à cet âge-là. Voilà, le reste peut être au-delà. Ça dépend aussi d'une situation. S'il y a une personne qui est en RQTH, en situation de reconnaissance de travailleur handicapé, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Mais on est ouvert à toute proposition, à toute rencontre, en fait. Voilà, on est au tiers-lieu Le Lien.
En tout cas, merci infiniment à tous les deux. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous arrêter. Je pense que ça leur donnera un petit peu plus de force si vous venez leur dire un petit coucou. C'est une belle association. C'est un magnifique projet. Je voulais vraiment vous mettre un petit peu sous la lumière de notre radio. Et merci encore de m'avoir reçu. Et bon courage à vous deux.
Merci. Au revoir.
Voilà pour cette chronique verte de Benoît Guillard, une chronique qui, je vous le rappelle, est disponible en consommation autant que vous en voulez sur le site de la radio, radioprésence.com. Dans quelques instants, coup de cœur en librairie en compagnie de Nicolas Dargegène. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Drops fall on
the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Bill sur Présence, Just the Two of Us.
Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Nicolas d'Argegène.
Le livre que je vous présente aujourd'hui est devenu en quelques années un classique de la spiritualité. Il s'agit de La Force du Silence, écrit par le cardinal Robert Sarra avec Nicolas Diat, paru en 2016 aux éditions Fayard et depuis édité en édition de poche. On ne présente plus son auteur, le cardinal Sarra. Ce prêtre guinéen, qui aura 80 ans cette année, a été archevêque de Conakry. En 2010, il est créé cardinal par Benoît XVI et assure la fonction de préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements de 2014 à 2021. Dans une époque de plus en plus bruyante, alors que la technique et les biens matériels ne cessent d'étendre leur emprise, c'est certainement une gageure que de vouloir écrire un livre consacré au silence. Écrire un livre sur le silence, c'est une idée un peu incongrue. En effet, pour parler du silence, ne vaudrait-il pas mieux un livre aux pages blanches ? Eh bien non, justement, car le silence, il faut apprendre à le faire, apprendre à le vivre. Nous vivons une époque de plus en plus bruyante et nous devons lutter, comme le dit le sous-titre du livre, contre la dictature du bruit. Et pourquoi retrouver le silence ? C'est tout simplement parce que Dieu est dans le silence et que nous avons besoin de le retrouver. Le cardinal Sarra l'écrit lui-même, « Sans le silence, Dieu disparaît dans le bruit. Et ce bruit devient d'autant plus obsédant que Dieu est absent. Si le monde ne redécouvre pas le silence, il est perdu. La terre s'engouffre alors dans le néant. » Voilà la grande question que pose le cardinal Sarra. Les hommes qui ne connaissent pas le silence peuvent-ils jamais atteindre la vérité, la beauté et l'amour ? La réponse est sans appel. Tout ce qui est grand et créateur est formé du silence, et Dieu est silence. Il nous faut donc apprendre à combattre le bruit du monde. Et comment le combattre ? Eh bien, simplement en faisant silence. Car c'est dans le silence que nous allons trouver Dieu. Comme le dit le cardinal Sarra, au cœur de l'homme, il y a un silence inné. Car Dieu demeure au plus intime de chaque personne. Dieu est silence, et ce silence divin habite l'homme. En Dieu, nous sommes inséparablement liés au silence. Dieu est silencieux. Si nous voulons le découvrir, si nous voulons le rencontrer, le cardinal Sarra le dit bien, il nous faut apprendre à être silencieux, car il n'y a pas d'autre voie pour aller vers Dieu que de passer par le silence. Le monde d'aujourd'hui nous drogue de bruit, nous remplit l'esprit de bruit, et plus nous sommes dans un environnement toujours plus bruyant, et plus nous nous enfermons dans le bruit, et plus nous nous éloignons de Dieu, car Dieu n'est pas dans le bruit. Le silence est vital pour notre propre bien. Si je veux me reposer, j'ai besoin de silence. Si je veux lire un livre, j'ai besoin de silence. Si je veux écouter de la musique, si je veux réfléchir, si je veux parler à l'autre, j'ai besoin de silence. Le silence est indispensable, vital pour notre relation au monde et aux autres, et notre relation à Dieu. Le silence est un combat. Pour vaincre ce combat, il faut d'abord se battre avec nous-mêmes, avec notre désir d'être dans le bruit. Le silence est un combat de chaque jour. Le Christ est celui qui nous conduit. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Donc il faut savoir l'écouter pour savoir où aller, et pour l'écouter, il faut faire silence. Le silence, il faut savoir l'écouter. Paul Valéry disait « Entends ce bruit fin qui est continu et qui est le silence. Écoute ce qu'on entend lorsque rien ne se fait entendre. » Oui, il faut faire silence pour l'écouter. Et cependant, Dieu, et c'est là que c'est paradoxal, mais Dieu va nous parler par le silence. Le cardinal Sarah l'écrit lui-même, « Beaucoup de nos contemporains ne peuvent accepter le silence de Dieu. Ils n'admettent pas qu'il soit possible d'entrer en communication autrement que par des paroles, des gestes ou des actions concrètes ou visibles. Or Dieu parle par son silence. Le silence de Dieu est une parole, son verbe est solitude. Dieu agit par le silence, il est toujours présent à nos côtés. Le cardinal le dit lui-même, Dieu est un ami discret qui vient partager nos joies, nos peines et larmes, sans rien attendre en retour. Il faut croire en cette amitié. Le beau et important message de cet ouvrage, c'est que si la parole caractérise l'homme, alors c'est le silence qui définit l'homme. Comme l'écrit le cardinal Sarah, la parole ne prend de sens qu'en fonction de ce silence. Voilà le beau et important message de cet ouvrage. Ce livre est une véritable méditation spirituelle sur le silence, car il est temps pour les hommes de retrouver l'ordre des priorités. Il est temps de remettre Dieu au centre de nos préoccupations, au centre de nos actions, de nos vies, c'est-à-dire la seule place qu'il doit occuper. Nous devons retrouver le sens de Dieu. Or, le silence est la seule façon de s'approcher de notre Dieu. Le silence n'est pas une notion abstraite, c'est réellement la voie qui nous permet à nous, hommes, d'aller à Dieu. Dieu est silence et le diable, lui, est bruyant. Satan cherche à masquer ses mensonges sous une agitation trompeuse et sonore. Le chrétien doit donc se détourner des bruits du monde, de ces rumeurs qui nous détournent de l'essentiel, Dieu. Notre société peut considérer l'homme silencieux comme un faible, comme celui qui ne sait pas se défendre, un sous-homme écrasé par l'autre dans les flots de ses discours. Voilà pourquoi on s'en prend aux silencieux, comme le montrent les crimes abominables contre ceux qui sont silencieux, les enfants non nés, les malades ou les personnes en fin de vie, bref, les plus fragiles. Le cardinal Sarah les qualifie de prophètes magnifiques du silence. Justement, par les questions que lui pose Nicolas Diat, le cardinal Sarah répond à la question que nous pouvons tous nous poser sur Dieu et le silence, ou plutôt la raison du silence de Dieu. Comment l'expliquer face au drame, au mal? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux dans ces moments-là? Il explique que Dieu ne veut pas le mal, que Dieu a sa façon mystérieuse d'être proche de nous dans les épreuves. Dieu est intensément présent dans nos épreuves et dans nos souffrances. Sa force se fait silencieuse parce qu'elle révèle son infinie délicatesse, sa tendresse pour ceux qui souffrent. Le silence révèle la compassion, la part que Dieu prend à nos souffrances. Avec Jésus, nous portons mieux nos souffrances et nos épreuves. Un des plus beaux exemples que nous propose l'Écriture, c'est Marie. En effet, sa vie entière est baignée de silence. Comme l'écrit le cardinal, Marie est entièrement absorbée par la contemplation, l'adoration et la prière. Elle se cache en son Fils, elle n'existe que pour son Fils. Elle disparaît dans son Fils. Marie est présente dans la vie publique du Christ, mais elle est silencieuse, à l'écoute de son Fils. Ce livre est un véritable trésor qui nous permet de réfléchir aux besoins de silence dans notre vie. Comment Dieu va-t-il pouvoir me parler si je ne fais pas silence? Car celui qui fait du bruit rencontrera difficilement Dieu, car Dieu est silencieux. Dieu vit dans le silence. La demeure de Dieu est le silence. La force du silence contre la dictature du bruit, par le cardinal Robert Sarah en collaboration avec Nicolas Diat, édité chez Fayard en 2016, est disponible à la librairie de la Grotte du Sanctuaire et dans toutes les librairies.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre. Laine du vieux ferré, les cris, la tempête. Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris. Adieu. Zelda, c'est fini, Montparnasse, Miles Davis qui sonne, Sagrego, tous les Morrison, le Nico.
théâtre et des souvenirs. Mais nous sommes opiniâtres à ne pas mourir, à traîner sur les berges. Venez voir, on dirait Jane et Serge sur le pont des Arts. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, adieu le jazz, adieu la nuit, un état dans l'état d'esprit, traité par le mépris, comme le Québec par les États-Unis, comme nous aussi.
Vous l'aurez reconnu, il s'agissait de Alain Souchon qui nous chantait Rive gauche.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
91.9 dans la belle vallée des Gaves à Argelès-Gazost, 96 sur Lourdes ainsi que sur Tarbes. Vous êtes en plein cœur de ce Présence Midi en direct des studios de Lourdes où il fait très très beau. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée à l'écoute de nos programmes. À suivre pour la demi-heure, la chronique solidaire de Anne Deslois qui nous proposera de découvrir un lieu peut-être pas très connu du sanctuaire de Lourdes. Il s'agit du Parvis Sainte-Bernadette. Nous aurons également un auteur qui a écrit sur nos belles Pyrénées et qui a arpenté pour cela les sentiers de notre belle chaîne montagneuse. Aujourd'hui, il s'agira de Ramon de Carbonnières. En attendant, eh bien, c'est l'heure de l'information avec le journal complet de la mi-journée.
Bonjour à tous, nouvelle journée de mobilisation dans le secteur médico-social. Plusieurs rassemblements seront organisés le mardi 26 mai en Occitanie pour dénoncer le manque de moyens humains et financiers dans les établissements spécialisés. Les professionnels du secteur réclament notamment des revalorisations salariales, davantage de recrutement et de meilleures conditions de travail afin d'assurer un accompagnement de qualité pour les personnes âgées en situation de handicap ou en difficulté sociale. Une mobilisation qui intervient dans toute l'Occitanie, dans un contexte de forte tension pour les structures médico-sociales. Une journée spéciale était également organisée hier à Montauban pour accompagner les nouveaux maires du Tarn-et-Garonne dans leurs fonctions. Réunis autour de plusieurs ateliers et échanges avec les représentants de l'État et des collectivités, les élus ont pu être sensibilisés aux enjeux juridiques, budgétaires et administratifs liés à leur futur mandat. L'objectif est de mieux préparer ces nouveaux maires aux responsabilités locales et aux attentes des habitants. Sur les routes maintenant, des travaux de réparation de chaussées vont perturber la circulation sur l'A75 en Aveyron entre le 26 mai et le 12 juin. Le chantier concernera le secteur de Séverac d'Aveyron et Campagnac. La circulation dans le sens de Clermont-Ferrand vers Béziers sera basculée sur une seule voie avec des limitations de vitesse et plusieurs déviations mises en place. Les autorités appellent les automobilistes à la prudence pendant toute la durée des travaux. Dans les Hautes-Pyrénées, une cagnotte en ligne a été lancée pour financer la rénovation du sanctuaire de Notre-Dame de Garaison. Ce lieu de pèlerinage, considéré comme l'un des plus anciens de la chaîne des Pyrénées, avant même Lourdes, nécessite d'importants travaux de restauration. Les organisateurs espèrent mobiliser fidèles et donateurs afin de préserver ce patrimoine religieux et historique emblématique de la région. À Tarbes, la halle Marcadieu prendra ce week-end des airs de Polynésie. Danseuses, tatoueurs, concerts et spécialités culinaires seront au programme d'un grand festival polynésien organisé pendant 2 jours. Plus de 60 artisans et exposants participeront à cet événement festif afin de faire découvrir la culture du Pacifique au grand public. Et puis en culture, le Toulousain Guilherme, récemment éliminé de l'émission télé The Voice, lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Le jeune chanteur explique rencontrer des grandes difficultés financières depuis son retour de l'émission et dit craindre ne plus pouvoir payer son loyer. Son témoignage suscite de nombreuses réactions de soutien sur Internet.
La météo, la chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Solidairement Vôtre. Bien aujourd'hui, on va parler d'un lieu de rencontre au sein même du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, le parvis Sainte Bernadette. C'est un espace d'accueil, de rencontre, de solidarité qu'on ne connaît pas forcément bien et pourtant il est situé au cœur même de la cité mariale. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adeline Tesserinck. Bonjour Adeline.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes salariée Adeline du CCF des Terres Solidaires pour la région Occitanie et particulièrement aussi pour un lieu d'accueil et de rencontre à Lourdes, l'espace Rencontre. Alors pour commencer, quelques mots pour nous expliquer ce qu'est le parvis Sainte Bernadette. Et déjà, où se situe-t-il dans le sanctuaire ?
Donc le parvis Sainte-Bernadette, c'est une pièce, c'est deux salles qui se situent à côté du parvis de l'église Sainte-Bernadette dans le sanctuaire, à côté de l'espace famille, donc de l'autre côté du Gave par rapport au basilique.
Donc très proche, on va dire, d'un côté il y a la basilique du Rosaire, il y a le pont et l'autre côté l'église Sainte-Bernadette et sur la droite... Le parvis Sainte-Bernadette.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce parvis Sainte-Bernadette ?
Alors, ce parvis, c'est un lieu que le sanctuaire met à disposition pour pouvoir accueillir le pèlerin, lui offrir un lieu où il peut se poser, où on échange, on l'accueille sur ce qu'il vit dans son pèlerinage individuel, sur ce qu'il découvre du sanctuaire, et nous, on est un peu là pour l'aider à y mettre des mots, l'aider à y associer le thème de l'année du sanctuaire, ou les différents gestes et messages de Lourdes.
Alors, peut-on dire que le parvis incarne pleinement les valeurs d'accueil, de solidarité et de dignité portées à Lourdes ?
Il me semble que oui, puisqu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas que porté par le sanctuaire, mais aussi par différents mouvements et services d'église.
Alors justement, donc, le parvis a une dimension spirituelle, humaine et fraternelle. Quelles sont les associations qui se retrouvent pour animer le parvis Sainte-Bernadette ?
Ce parvis Sainte-Bernadette, moi je trouve que c'est un lieu fort, puisque c'est vraiment faire église ensemble, où on est des mouvements qui viennent vraiment d'horizons différents. Donc il y a le CCF des Terres Solidaires, il y a Pax Christi, et il y a après l'espace Vifoi, la fraternité de Job.
Qu'est-ce que l'espace Vifoi ?
L'espace Vifoi, en fait, c'est une association qui a été créée, où c'est le rassemble de tous les mouvements chrétiens, comme le CMR, comme la CO, l'Action catholique ouvrière, l'Action catholique des enfants, voilà, tous ceux qui sont dans une dynamique de observer, voir, comprendre et agir.
Alors, vous disiez, donc, CCF des Terres Solidaires, Pax Christi, Vifoi, d'autres mouvements et services se sont associés au parvis ?
Oui, il y a la Fraternité de Job, qui, eux, viennent essentiellement en juillet et qui vraiment proposent des ateliers de vivre ensemble aux pèlerins qui viennent ici.
Fraternité de Job, est-ce que c'est ce rassemblement de personnes qui se sont trouvées après le rassemblement Diaconie ou Diaconia en 2013
oui.
Donc des gens qui connaissaient une certaine précarité,
fragilité.
Ouais.
Et qui se sont mis ensemble et qui, pour le coup, représentent vraiment une image de l'Église, un visage de l'Église qui, grâce au sanctuaire, a une place ici pleinement à travers ce parvis.
Et vous disiez la Légion de Marie aussi.
Et la Légion de Marie, exactement, qui fait des permanences tous les dimanches.
D'accord. Alors la Légion de Marie, je crois aussi qu'elle est très engagée au niveau de la procession eucharistique au sanctuaire. Alors, dites-nous, on imagine combien cette diversité d'associations, de mouvements est une vraie richesse. Vous-même, vous dites vraiment, et ça dit quelque chose de l'Église. Comment s'organise la collaboration entre vous tous ?
Par la discussion, et on y arrive, on partage ce lieu, donc on s'est un peu réparti les différents jours de permanence, et après on co-anime ensemble certains temps.
Donc il y a une coordination de ces mouvements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être un chaplain ou quelqu'un d'autre dans le sanctuaire qui a le lien avec vous?
Il y a effectivement un chaplain qui est référent de cette mission-là. C'est le Père Turc, Jacques Turc, qui nous accompagne et qui nous invite en début d'année à se réunir pour organiser l'année qui va arriver, la saison qui va arriver, et qui aussi nous nourrit du thème d'année du sanctuaire pour qu'on puisse aussi en faire pas en faire l'apolo, juste qu'on puisse le faire passer à travers les pèlerins.
Et quel est ce thème d'année cette année?
C'est le Je vous salue Marie, et c'est le oui inconditionnel de Marie face à l'ange Gabriel d'accepter la mission, d'accepter le Fils de Dieu dans son sein.
Alors on peut imaginer que chacun ou chacune des associations qui forment le Parvis Sainte-Bernadette a travaillé ce thème avec leurs spécificités. Vous, au niveau du CCFD Terre Solidaire, comment vous allez proposer cette rencontre avec les pèlerins autour du thème du Je vous salue Marie?
Alors, effectivement, la grosse richesse de ce Parvis-là, c'est qu'on est plusieurs mouvements et services d'église à l'animer, et donc on accueille le pèlerin avec chacun sa couleur. Et on propose des activités en lien avec sa couleur, avec ce qu'on peut porter aussi, tant dans notre message d'église que dans notre association. Et donc cette année, on propose, il y a différentes animations qui sont proposées. On va faire des animations type théâtre Camille Shibai autour des signes et des gestes de Lourdes, mais aussi du oui de Marie, de comment est-ce qu'on peut approfondir en quoi le oui de Marie fait écho en moi, à quel moment moi aussi je dis oui au Christ, à quel moment je dis oui à la mission que le Seigneur m'a donnée et qu'est-ce que ça m'apporte aussi. Et Pax Christi fait de même, enfin, il y a des porte-paroles, il y a des petites animations autour de la question de la paix, autour de la question de moi, comment je m'investis là-dedans, autour des prières de Bernadette.
Vous avez parlé tout à l'heure des signes de Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous en présenter l'un ou l'autre et comment vous-même vous arrivez à le mettre en valeur auprès des pèlerins?
Donc les signes de Lourdes, il y en a différents. Il y a l'eau qui est vraiment le signe majeur sur lequel l'eau c'est la vie et qui est vraiment présent dans notre quotidien. Donc nous on arrive vraiment facilement à pouvoir échanger autour de ça, comment cette eau qui est la source de la vie et en même temps on l'épuise tellement que c'est aussi un danger, mais comment est-ce qu'on peut le remettre en avant et qu'est-ce que ça peut nous apporter? Il y a la lumière, le cierge, la lumière, donc ça c'est à travers les processions, mais nous aussi la lumière c'est aussi le Christ présent auprès de nous, donc comment est-ce qu'on le fait vivre, et le rocher qui est un autre signe important, où le rocher, c'est là où on s'abrite, c'est quelque chose qui est rassurant et en même temps un côté un peu qui peut faire peur parce que c'est dans le noir. Et nous, au niveau du parvis du CCFD, c'est aussi un signe où on peut aussi parler de la roche, quelque chose de solide, mais qui est aussi très, très fragile, sur lequel c'est important d'en prendre soin de notre nature et de ce que ça peut nous apporter.
On entend, Aline, à travers tout ce que vous venez de nous dire, que les activités au sein même du Parvis Sainte-Bernadette sont très diversifiées, en fait. Mais quel rôle joue le Parvis Sainte-Bernadette au sein même du sanctuaire de Lourdes? On a bien compris votre situation au cœur vraiment de la cité mariale, à quelques pas même de la grotte. Quel est le rôle que vous jouez et qui est essentiel?
Le rôle essentiel, c'est d'accueillir le pèlerin individuel, celui qui ne vient pas dans un groupe et qui, pour le coup, n'a pas forcément fait de programmation, qui découvre un peu le lieu sur le moment. Et notre rôle, c'est vraiment de pouvoir l'accueillir, éventuellement de le guider sur les différentes propositions que fait le sanctuaire et d'avoir aussi un temps ici d'échange sur en quoi ça résonne tout ce qu'il est en train de vivre, tout ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il interroge et comment est-ce qu'il peut se nourrir pour après, quand il repart chez lui, repartir avec tout ça et être un peu un missionnaire.
Donc il y a vraiment un impact sur le pèlerin. Vous ne seriez pas au cœur du sanctuaire, c'est des gens qui ne seraient pas forcément où se diriger. Ils iraient vers la grotte parce qu'elle est encore assez facile à découvrir, mais qui n'auraient pas forcément eu de contact avec quelqu'un qui donne vie au sanctuaire.
D'autant plus que souvent, on rencontre des gens qui se posent et vraiment qui, là, vont aller échanger et partager des choses très profondes de ce qu'ils ont vécu ou de ce qui les a amenés à venir ici. Et ils s'enrichissent de ça, ils nous le confient. C'est vraiment un trésor qu'ils nous confient. Et après, on essaye en tout cas par l'écoute qu'on lui propose et les pistes de réflexion qu'on peut partager, à faire qu'ils s'en nourrissent et qu'ils puissent après ressortir grandis.
Est-ce qu'on pourrait dire que l'initiative Parvis Sainte-Bernadette complète la dimension spirituelle du sanctuaire? C'est une présence concrète que vous avez auprès des personnes seules, comme vous me disiez, mais peut-être aussi de personnes en précarité, de personnes fragiles qui viennent en sanctuaire et qui ont besoin peut-être d'avoir un visage sympathique là dans leur contact à quelques pas de la grotte.
Tout à fait, la porte est ouverte. Alors après, c'est pas toujours évident de passer le pas, mais c'est sûr qu'une fois qu'ils l'ont passé, qu'ils découvrent ce qu'il y a, souvent ils se posent, ils arrivent à se poser et on prend le temps d'échanger. Et ça, vraiment, c'est souvent même ils vont revenir plusieurs fois dans leur séjour. Ils arrivent au début et puis après ils reviennent au milieu et puis à la fin pour partager un peu tout ce qu'ils ont vécu. Au moins ils ont une personne en fait à qui ils peuvent, où ils sont pas tout seuls dans ce pèlerinage, à qui ils peuvent partager ça.
Moi, au travers tout ce que j'ai entendu de votre partage, Adeline, j'entends combien c'est une manière de vivre la foi à travers à la fois l'action et la rencontre des autres. Merci Adeline pour cet éclaircissement, ce témoignage aussi, parce que je sais que vous y êtes engagée avec toutes vos tripes d'acteurs solidaires. Alors, on retient que le Parvis Sainte-Bernadette est bien plus qu'un espace, hein, un lieu de rencontre, de solidarité et d'espérance.
Tout à fait, merci.
Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle. À très bientôt pour une nouvelle émission.
Merci Yann Delon, on se retrouve effectivement dès vendredi prochain. À suivre dans une poignée de secondes, l'auteur mis à l'honneur par Catherine Albrecht, Ramon de Carbonnière qui a sillonné les belles Pyrénées, juste après Zucchero.
Présence à Mirande, 104.2.
Du Pays basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez aujourd'hui avec Raymond de Carbonnière. Géologue et botaniste confirmé, passionné de littérature, Louis Ramon de Carbonnière est aussi considéré comme l'un des premiers explorateurs de la haute montagne pyrénéenne. Ce baron se piquait également de politique puisqu'il fut élu en septembre 1791 député de Paris. L'année suivante, il défend les prêtres réfractaires dont la déportation a été votée. Menacé par les révolutionnaires, il fuit Paris au mois d'août 1792 et se réfugie dans les Pyrénées, où il était déjà venu herboriser à l'automne 1787. Ramon de Carbonnière s'installe dans le petit village de Barège, non loin d'Argelès-Gazoste, dans la partie sud-occidentale de la Bigorre. Là, il en profite pour remonter au pic du Midi qu'il a déjà gravi à plusieurs reprises. Mais c'est un jour particulier. Car une fois au sommet, Ramon et ses camarades voient apparaître le spectre de Brocken. Phénomène rare, dû à la conjonction de conditions atmosphériques particulières et de l'orientation du soleil. Ce spectre est l'ombre considérablement agrandie d'un objet observé sur un sommet montagneux. Cette ombre est parfois entourée d'un cercle lumineux. Si celui-ci est composé des couleurs de l'arc-en-ciel, on parle alors de gloire ou d'entélie. Je montais au pic le 8 août 1792 avec un ciel pur et le plus beau soleil. Arrivé à la cime à 3h30 de l'après-midi, je trouvais non seulement la plaine entièrement couverte de nuages, mais ces nuages pressés contre l'escarpement septentrional de la montagne et se dressant perpendiculairement sur ma tête à une hauteur que je n'estime pas moindre de 150 mètres. La distance était facile à mesurer. 30 pas au plus. Sur cet immense rideau, dont la surface était parfaitement plane, se projetait mon ombre, celle de trois personnes qui m'accompagnaient, et l'ombre du tronçon de sommet au haut duquel nous étions placés. Le tout environné d'un iris, dont le diamètre m'a paru de 40 degrés au moins, et à peu près égal à celui des halos que nous voyons autour de la Lune. La continuité de cette vaste circonférence n'éprouvait d'autre interruption que celle d'un arc de quelques degrés, intercepté par l'image de notre piédestal. Les couleurs de l'iris étaient d'une vivacité admirable, et nos ombres d'une telle netteté qu'un miroir n'en aurait pas plus fidèlement représenté les contours. Nous contemplâmes ce tableau l'espace de 3/4 d'heure, sans qu'il éprouvât la plus légère altération. Sur ce rocher, sous ce ciel, à la vue de ce magique spectacle, on eût cru assister vivant à son apothéose. Les caractères distinctifs du tableau qui s'est présenté à mes yeux, la netteté des ombres, la correction de leurs contours, l'unité et l'étendue du cercle irisé s'expliquent tout naturellement par la forme de ce nuage qu'un courant d'air, à la fois rapide et continu, déployait devant moi comme l'eût été un rideau bien tendu. Les nuages, au contraire, où Bouguer, les fils de Saussure et d'autres observateurs ont vu leur image imparfaite ou tronquée, et leur tête seulement environnée d'auréoles, avaient sans doute la forme ordinaire et offraient cet assemblage de surfaces convexes qui donne un aspect floconneux aux amas de vapeurs abandonnés à eux-mêmes. Il n'est pas aussi aisé d'expliquer le phénomène lui-même. Voir son ombre sur un brouillard est une chose fort ordinaire. Mais voir cette ombre entourée d'un cercle coloré est une chose si rare que la formation de cet iris semble exiger le concours d'une condition tout à fait extraordinaire. Bouguer pensait que les particules du nuage étaient glacées. Saussure partage mon opinion et l'appui de ce qu'il gelait sur la montagne de Salève au moment où ses fils furent témoins du phénomène. Bonnier, au contraire, ne trouve dans sa propre observation rien qui autorise cette conjecture. et Homalius d'Alois ne croient pas du tout à la congélation des particules dans un brouillard qu'ils rencontraient le 27 août à une élévation très médiocre au-dessus du niveau de la mer. Je ne puis que me ranger à leur avis, bien qu'il eût dans les dimensions de mon iris de quoi favoriser l'opinion de Saussure, mais certes il ne gelait pas le 8 août au pic du midi. Et j'aurais peine à me persuader qu'il gela dans cette nue, vivement éclairée de soleil, que je touchais de la main et qui remontait de la plaine. À travers les mots, les regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Ramon de Carbonnière. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
Merci Catherine Albrecht pour ces promenades hebdomadaires que nous avons plaisir à partager avec vous. C'est là-dessus que s'achève ce Présence Midi sous le beau ciel des Pyrénées et de Lourdes également. Ce ciel restera bleu tout au long de la journée avec donc une montée progressive des températures qui déjà avoisine les 30 degrés. C'est une belle fête de la Pentecôte que je vous souhaite également avec ce week-end et cette belle fête de l'Esprit-Saint. Dimanche prochain, n'oubliez pas la prière aujourd'hui, demain et après-demain bien sûr, et tous les jours de l'année sur Présence avec la méditation du chapelet à 15h30 pour toutes vos intentions. Je vous laisse avec Thomas Boissy, La Mer.
Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons mouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer bercer mon cœur pour la vie.
Le journal.
Le journal.
L'étau se resserre de plus en plus autour du principal parti d'opposition turque, le CHP.